ne sera rien. Rien que des mots, des mots. Des mots, comme à la radio. Ça ne dérangera pas, ça n'empêchera pas de jouer aux cartes, ça n'empêchera pas de dormir sur l'autoroute, ça n'empêchera pas de parler d'argent. Ce sera tout à fait comme la radio.
Bonsoir, bonsoir. Vous êtes bien sur Radio Pleine Lune 93.8 MHz. Ondes Femmes, Radio Zone, le remue-ménage s'éteint. La lune monte dans vos oreilles sur 93.8 MHz. Au programme Les Informels, nos nouvelles dans quelques instants, suivies des coups de cœur de Marjolaine. À tout de suite pour les nouvelles. Bonsoir, vous êtes sur Radio Pleine Lune 93.8 MHz, Ondes Femmes, Radio Zone, nos nouvelles. Hier, mardi 21, pour le premier jour du printemps, un peu partout en Suisse romande, des jeunes ont organisé une manifestation pour inaugurer, si on peut dire, le printemps de l'antiracisme. Manifestation à Neuchâtel, à La Chaux-de-Fonds, à Lausanne, à Genève aussi, où 200 personnes, environ 200 à 300, se sont réunies de la place de la rue du Mont-Blanc, officiellement place du Mollard et officieusement l'hôtel de ville, en scandant non à l'application des mesures de contrainte. On pouvait également voir dans cette manifestation une banderole rappelant une solidarité avec les femmes algériennes. Elle était amenée par Kalimat, le groupe d'information des femmes du Maghreb et du Maghreb Genève, ce groupe qui venait là pour dénoncer les assassinats et, la terreur menée en Algérie contre les femmes par les intégristes. Écoutons leurs revendications.
Correspond au fait qu'actuellement en Algérie, depuis le 8 mars, donc depuis le fameux tribunal contre l'intégrisme que les femmes algériennes ont tenu, les intégristes islamistes algériens ont décidé, ont fait une fatwa et tous les jours ils tuent une femme. Et ils arrivent à en tuer jusqu'à aujourd'hui tous les jours une femme. Auparavant, ils ciblaient les femmes n'importe comment, n'importe qui. Actuellement, ils ciblent les mouvements de femmes, donc les femmes, les militantes, celles qui grâce auxquelles tiennent encore les associations de femmes qui dénoncent l'intégrisme. Et donc nous devons être le relais de ces femmes aussi en Europe.
Concrètement, vous demandez à la Suisse qu'elle élargisse son droit d'asile.
Nous demandons à la Suisse d'accorder le droit d'asile aux femmes algériennes et aux hommes algériens menacés par l'intégrisme islamiste. Ça, c'est clair, puisque la loi dit qu'il faut que ça soit c'est quand l'État, tu es menacé par l'État que tu peux avoir le droit d'asile, alors que là, ce n'est pas l'État, c'est les intégristes qui les menacent et elles ont besoin de ce droit d'asile.
C'était donc une des responsables de Kalimat, ce bulletin d'information Femmes du Maghreb et du Maghreb Genève, qui était donc présente à cette manifestation antiraciste. La terreur et les assassinats continuent en Algérie contre les femmes, où Rachida Hamadi, une des journalistes les plus connues de la télévision d'État algérienne, a été grièvement blessée par balle le 20 mars. Âgée de 32 ans, elle a été atteinte alors qu'elle sortait de son domicile, une cité abritant des policiers dans le quartier de Ben Aknoum, sur les hauteurs de la capitale. Sa sœur a été tuée dans le même attentat. Ce nouvel attentat intervient alors qu'une vague d'assassinats sans précédent prend pour cible les femmes et les adolescentes. Au moins 10 d'entre elles ont été tuées par balle ou égorgées ces 9 derniers jours. Rachida Hamadi est l'une des journalistes féminines, peu nombreuses dans la rédaction, les plus célèbres de la télévision. Reporter, elle présentait parfois le journal télévisé. La télévision a payé le plus lourd tribut aux islamistes avec 7 de ses journalistes assassinés. Et puis la semaine dernière, jeudi 16 mars, 2 sœurs ont été également retrouvées égorgées en Algérie, dans la région du Sud-Est, les Aurestes, portant à 9 donc le nombre de femmes tuées en 6 jours. cette campagne sans précédent qui est attribuée au groupe islamiste armé. Les deux adolescentes, Soraya et Malika Ben-Cherif, avaient été enlevées dans la nuit de mercredi à jeudi par un groupe armé. En solidarité avec ces groupes de femmes algériennes, le collectif Pluriel a organisé samedi à Paris, devant le cinéma parisien L'Entrepôt, une rencontre débat avec des femmes venues d'Algérie. Et puis toujours un peu dans la même ordre d'idées, en Afghanistan, les talibans ont fait de Kandahar leur capitale et du coup l'ordre islamique règne dans le sud du pays. Les talibans qui sont donc ces troupes d'étudiants islamiques qui ont conquis une grande partie du territoire. La ville fait donc figure de capitale religieuse des talibans. Elle est soumise de jour comme de nuit à une sévère surveillance militaire. 7 exécutions et 2 amputations ont été pratiquées en place publique au nom de la loi islamique du code de la famille, la charia. Quant aux femmes, elles ne circulent plus dans la rue, sauf autorisation et sous l'obligation du tchador. Les talibans ont fait savoir qu'ils envisageaient de fermer pour un temps les écoles de filles. Aux États-Unis, les républicains américains s'attaquent aux aides sociales. À tel point que Clinton a dénoncé ce vote en estimant qu'il coupait trop chez les gens et pas assez dans le gras du budget. Au moment de réduire le déficit, c'est les femmes et les enfants d'abord qui vont subir les effets. En effet, les coupes dans les dépenses sociales vont souvent l'être au détriment des mères célibataires ou de l'aide à l'enfance défavorisée. En effet, les républicains savent que leur fonds de commerce électoral, c'est un électorat masculin blanc dont la grogne et le ressentiment vis-à-vis des gaspillages de l'État fédéral et des bénéficiaires d'aides diverses ont porté d'ailleurs la vague conservatrice de novembre au gouvernement. La Chine devient un pays à deux épouses. En effet, beaucoup de Taïwanais et de Hongkongais expatriés ont pris une deuxième femme en Chine populaire, ce qui semble poser un problème, soit pour celles qui sont restées à Taïwan ou à Hong Kong, soit pour les Chinoises. Depuis une quinzaine d'années, quelques centaines de milliers d'hommes d'affaires et d'employés hongkongais sont allés tenter leur chance en Chine populaire. De même, environ 15 000 sociétés de Taïwan ont pris pied de l'autre côté du détroit. Éloignés de leurs femmes pendant de longues périodes, ces hommes ont commencé à avoir des relations extra-conjugales et ont fini par mener une double vie avec femmes et enfants adultérins en Chine. Les services sociaux de l'Association des femmes de Hong Kong reçoivent un nombre croissant de demandes d'aide de la part de femmes abandonnées par des maris qui travaillent en Chine. Ces drames sont pour quelque chose dans le nombre record des divorces qui a été enregistré l'année dernière dans la colonie britannique. Au vu du nombre croissant de ces drames familiaux, un membre du Conseil législatif de Hong Kong vient de proposer de faire de l'entretien d'une deuxième femme un délit qui relève du droit pénal au même titre que la bigamie. Les différences de niveau de vie sont tellement fortes entre Chinois et Hongkongais qu'un homme d'affaires de Hong Kong ou de Taïwan devient facilement un objet de convoitise pour les jeunes filles en Chine populaire, pour qui ça devient une source de revenus, et bien punissant par la prison l'adultère. Toujours dans le continent asiatique, en Chine, en Inde et en Corée du Sud, le nombre d'avortements d'embryons féminins a très sensiblement augmenté depuis 15 ans. Dans ces pays où mettre au monde un garçon constitue toujours une bénédiction, la rareté des jeunes filles et des filles n'entraîne cependant pas une amélioration du sort des femmes. La Chine est l'un des pays où le déséquilibre dans la répartition des sexes à la naissance est le plus criant. L'an dernier, 117 garçons sont nés pour 100 filles, contre 106% de moyenne mondiale. En Asie, seule la Corée du Sud et l'Inde présentent un déséquilibre comparable. Or, dans ces trois pays, subsiste un préjugé négatif à l'égard des filles. La médecine moderne, permettant aux femmes enceintes de connaître très tôt le sexe de l'enfant qu'elles attendent, le nombre d'avortements d'embryons de sexe féminin y est tel que l'équilibre démographique est fortement compromis. À la fin du siècle, la Chine pourrait compter près de 70 millions de jeunes célibataires, garçons, condamnés à ne jamais se marier. À la même époque, en Corée du Sud, les hommes célibataires seront nettement plus nombreux, 22%, que les femmes non mariées. Et l'Inde compte déjà, à l'heure actuelle, 927 femmes pour 1000 hommes. Les démographes ont enfin réussi à attirer l'attention des gouvernements sur ce problème. En janvier dernier, les autorités chinoises ont interdit aux couples d'avoir recours à des moyens techniques pour déterminer le sexe de l'enfant à naître. L'Inde avait fait de même en juillet 1994. En Corée du Sud, où la détermination du sexe et l'avortement sont deux pratiques illégales mais répandues, le gouvernement est en train de repenser son programme de limitation des naissances. Le législateur cherche à promouvoir le statut de la femme en lui permettant d'hériter du patrimoine et du nom de sa famille. Les tenants de la loi du marché estiment que la pénurie des jeunes filles à marier entraînera par la suite une revalorisation du statut des femmes. Mais d'autres observateurs envisagent une issue beaucoup moins heureuse, plus inquiétante, et affirme plus probable, les hommes qui n'auront pas les moyens de se payer l'objet de leur désir auront légitimement recours à des méthodes douteuses. On pourrait par exemple assister à une augmentation des enlèvements, les femmes étant ensuite vendues comme épouses ou comme prostituées. Au cours des 10 dernières années, d'ailleurs, en Chine, la police a arrêté plus d'un millier de trafiquants et libéré environ 5000 femmes retenues contre leur gré, et cela dans une seule région de la Chine. Certains militants estiment que la pénurie de femmes qui menace aura pour effet d'affaiblir encore un peu plus la position des femmes dans la société. Car les minorités sont toujours maltraitées, souligne Sandhya Gokhale du Forum des femmes de Bombay. Le rapport femmes-hommes baisse dangereusement. Si cela continue, les femmes en souffriront. Déjà, la prostitution se développe le plus souvent sous la contrainte et les enlèvements se multiplient. Les victimes sont souvent des jeunes filles originaires des villages pauvres du Népal ou du Bangladesh vendues comme épouse ou comme prostituée. Tchéquie, il est difficile d'être féministe. Entre l'idée fausse que le régime communiste voulait détruire la famille et une vision hystérique du féminisme occidental, l'ambiance est à la paranoïa. La situation des femmes laisse pourtant à désirer. Il y a actuellement plus de 30 organisations de femmes en Tchéquie. Parmi elles, bien sûr, l'Union des femmes héritières de l'organisation socialiste du même nom, qui bénéficie pour cette raison d'une meilleure infrastructure matérielle que ses concurrentes. Mais il y a également des femmes chrétiennes, des femmes chefs d'entreprise, des chercheuses scientifiques, des organisations de lesbiennes qui ont leur propre centre. Certains mouvements, comme les maires de Prague, ont leur équivalent en Bohême du Sud et ont pris un caractère plus écologique. Il n'y a guère que l'organisation Nouvelle Humanité autour de l'écrivaine Alexandra Berkova pour se réclamer ouvertement du féminisme. Leur vision des choses est plus ou moins la suivante. Si les femmes se projetaient avec plus d'audace dans la vie publique et professionnelle, elles auraient une influence civilisatrice et humanisatrice sur une société jusqu'ici modelée essentiellement par les représentations masculines. Elles apporteraient une sensibilité plus affinée pour résoudre des problèmes relevant de la sphère scolaire, sanitaire et sociale. Le souci des enfants et les travaux domestiques ne devraient pas être attribués seulement aux femmes. En France, campagne électorale, Madame Laguiller, candidate de lutte ouvrière, assure que le capitalisme est en faillite. Arlette Laguiller a tenu vendredi 17 mars à Paris, dans la salle de la Mutualité, sa première grande réunion. Dans son programme, elle a proposé d'augmenter les recettes de l'État en rétablissant à 50% le taux d'impôt sur les sociétés. Elle a proposé également une loi pour interdire les licenciements, défendu le contrôle des comptes par les ouvriers et l'embauche par l'État. l'État. Elle a proposé une augmentation des salaires de 1 500 francs. Rien n'a été dit sur la situation des femmes. En Suisse, soutenue par la gauche, l'initiative en faveur des quotas féminins a été déposée mardi 21 mars. Trop volontariste, disent les partis bourgeois, qui à quelques mois des élections fédérales ne manquent pas d'autorité pour prouver à leur électorat qu'ils s'intéressent de près aux femmes. Cette initiative propose donc une représentation équitable des femmes dans les autorités fédérales. Elle a été munie de 110 000 signatures. Quelques femmes du comité d'initiative, comme la conseillère nationale écologiste Rosemarie Baer, sa collègue socialiste la Margrit von Felten et la présidente de l'Association suisse des droits de la femme, Simone Chapuis, ont appelé le Conseil fédéral à soumettre le texte en votation d'ici septembre 98. L'initiative dite du 3 mars exige que le Conseil fédéral compte au moins 3 femmes. Elle demande que le Conseil national, que pour le Conseil national, que la différence entre le nombre des députés et des députés de chaque canton ne soit pas supérieure à 1. Et au Conseil des États, elle veut que chaque canton soit représenté par un homme et une femme lorsqu'il dispose de 2 sièges. Au tribunal fédéral, elle demande une présence féminine de 40% au moins. Enfin, elle parle d'une représentation équilibrée des femmes dans les administrations de la Confédération, les régies et les hautes écoles. Donc, les partis bourgeois se sont immédiatement ont cherché à ridiculiser cette initiative. Il est vrai que ces partis font des sourires aux femmes, sourires qui font parfois faire la grimace. C'est le cas, par exemple, du Parti démocrate chrétien qui a décidé de miser sur les femmes, avec une brochure où il affirme que les femmes ne doivent plus être considérées seulement comme l'un des piments de l'existence, mais comme des partenaires d'égale valeur à l'intérieur du parti. C'est marrant, hein ? On croit que pour eux, elles en sont encore au piment de l'existence. Chez les radicaux, on affirme que la femme est fondamentalement nécessaire. Ouf ! Les deux partis ont du reste inventé un concept original et assez paradoxal, qu'ils veulent plus souple que celui défendu par l'initiative, le quota facultatif. C'est bien ça. L'argument promotion des femmes en politique gagne un charme certain lorsqu'on en apprend que 62% de ces indécis qui votent hors parti sont des femmes. On essaye donc de les attirer. Reste qu'ayant compris la chose, les partis se contentent malheureusement aujourd'hui trop souvent de proposer une femme quelques mois avant les élections, déplore la sociologue Taun Balmerkao. Un acte qui paraît plus tenir de l'esthétique et de l'opportunisme que d'une réelle volonté de voir cette femme triompher. Les chiffres, d'ailleurs, donnent raison. Les dernières élections fédérales, lors des dernières élections, la présence des femmes démocrates chrétiens au Conseil national est passée de 14% à 11%, résultat identique chez les radicaux. Seuls les écologistes ont atteint un score de 57% et les socialistes de 29%. Dans l'ensemble, les femmes ont souvent l'impression d'être bonnes pour les causes perdues. Et ce n'est que lorsque le parti est placé dans une situation de compétition qu'il se montre plus soucieux de se forger une image de marque novatrice en présentant plusieurs femmes. Elles ne sont là que pour prendre les risques. En somme, quand tout va bien, c'est les hommes qui montent au créneau. Toujours en Suisse, dans le canton de Vaud, Yvette Yagi va revenir peut-être au Conseil des États pour prendre le parti des villes. Après avoir longuement hésité, la socialiste vaudoise est prête à retourner à Berne. Francine Jean-Prêtre, prétendant déclarer depuis des mois, se contentera d'être la tête de liste des candidats au national. Yvette Yagi a donc décidé d'être candidate au Conseil des États. Puis la morgienne Francine Jean-Prêtre renonce donc à cette même candidature qu'elle avait pourtant proposée. Troisième information, Francine Jean-Prêtre sera la tête de liste des candidats vaudois au Conseil national. Non. Toujours en Suisse, la fabrique de biscuits Cambly veut améliorer la condition de l'ouvrière. Cette fabrique de biscuits se montre assez progressiste avec ses 300 employés, des femmes pour la plupart, qui cependant ne profitent pas de leurs avantages sociaux malgré une croisade énergique de la chargée du personnel et de la communication, Sylvana Pivetta, qui essaye de mettre en place des mesures pour aider les femmes. En effet, l'entreprise Cambly a signé la charte des paroles aux actes et donc est décidée à passer aux actes et à promouvoir les femmes en écoutant ses besoins spécifiques. Cependant, premier constat, les femmes utilisent difficilement les possibilités qui leur sont données. On se doute pourquoi. Premièrement, constate Sylvana Pivetta, chargée du personnel, les femmes n'utilisent pas leur temps libre pour satisfaire des désirs personnels. Si elles ne travaillent qu'à 80%, c'est pour prendre une heure de plus à midi et rentrer faire à manger pour la famille. Nous avions également ouvert une crèche, continue-t-elle, pour les enfants du personnel. Mais nous avons dû la supprimer car les ouvrières ne l'utilisaient pas. Les maris rechignent à les voir travailler, refusent qu'en plus elles amènent leurs enfants à la fabrique. Difficile d'aider les femmes à s'affirmer quand elles n'y sont pas encouragées à la maison, continue-t-elle. Autre étonnement, seules quelques étrangères tirent parti du congé de maternité de 16 semaines et du salaire augmenté de 25% pendant l'année qui suit l'accouchement. Les femmes suisses arrêtent de travailler quand elles ont un enfant. Leur mari les oblige plus ou moins. À Genève, nouvelle loi pour contrôler les salons de massage que le canton légalise en les considérant plus ou moins comme des maisons closes. On va donc un règlement cantonal unique en Suisse assimile désormais le massage érotique à de la prostitution pure et simple. Du coup, plusieurs instituts doivent être considérés comme des maisons de passe. On l'appelle, si l'on ose dire, un chat. Genève met fin à une forme d'hypocrisie qui voulait que seul l'acte de pénétration au sens strict entrait jusqu'alors dans la définition de la prostitution. Dans d'autres cantons, les salons érotiques continuent d'être traités comme s'il s'agissait de fitness ou de salons sportifs ou de relaxation. La brigade des mœurs a donc convoqué la plupart des personnels de masseuses et les a soumis à ce qu'elle a appelé un interrogatoire léger, puis les a invités à s'annoncer auprès des autorités fiscales qui les taxeront comme les prostituées selon un barème forfaitaire. Et pour terminer, j'aimerais vous donner une petite nouvelle de communication sur Internet. Eh oui, la pleine lune part sur les réseaux virtuels. C'est grâce à un ordinateur portable alimenté sur l'allume-cigare d'un camion que le sous-commandante Marcos de l'armée zapatiste envoie ses messages sur Internet. Copiés sur disquette par des militants mexicains des droits de l'homme, ces textes sont ensuite essaimés par courrier électronique. Marcos a envoyé un message proposant une action urgente. Dans ce texte, il communiquait le numéro de fax personnel du président Ernesto Zedillo et celui de son ministre de l'Intérieur, lesquels aussitôt ont été submergés de messages d'insultes. Si vous voulez entrer en contact avec le cyber-révolutionnaire, voici son adresse sur Internet pueblolaneta.apc.org. Alors, bonne chance sur Internet. C'était les nouvelles sur Radio Pleine Lune 93.8 MHz. Dans quelques instants, les coups de cœur de Marjolaine. Thank you.
qui cachait ses chagrins dans les jardins perdus et qui aimait la pluie, le vent et la paille et le frais de la nuit et les jeux défendus. Quand viendra ce jour-là, sans passe et sans bagage, nous partirons ensemble vers un nouveau printemps qui mêlera nos corps, nos mains et nos visages. Il y a tant et tant de temps que l'on s'attend. À quoi bon se redire les rêves de l'enfance? À quoi bon se redire les illusions perdues? Quand viendra ce jour-là, nous partirons ensemble, à jamais retrouvés, à jamais reconnus. Le jour où tu viendras, le jour où tu viendras. La 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 la